De la soirée du 15 Nissan, c'est donc celle de raconter la sortie d'Égypte. Il faut se demander pourquoi c'est tellement important de raconter cette sortie d'Égypte. Alors, on va essayer de voir quelques-unes des réponses qui ont été données à cette question-là. Le récit de la sortie d'Égypte, on l'avait dit, c'est un récit un peu particulier dans la mesure où ça n'est pas le récit de quelque chose qui a existé indépendamment du récit. Je vous répète que, au bout d'un certain temps, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Paro, il va céder maintenant. Il a reçu des makot, ça fait trop mal, il va céder. Mais moi, je ne vais pas le laisser céder parce que j'ai encore à terminer la démonstration que je veux donner à l'Égypte. Démonstration de mon pouvoir absolu. Et donc, je vais aider Paro à tenir le coup pour que je puisse achever la démonstration. En d'autres termes, aller jusqu'au bout des makot que Hachem a prévu de leur donner, qui sont la totalité de la démonstration de la toute-puissance d'Hachem. Et puis, dans la même phrase, Hachem a dit, mais c'est aussi parce que je veux que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, comment je me suis moqué de l'Égypte. Ça veut dire que Hachem dit, en ce qui concerne les Bnei Israël, ça n'est pas que Hachem a fait quelque chose et ensuite il nous dit de le raconter. C'est que l'essentiel, c'est le récit, et donc les choses n'ont été faites que pour qu'il y ait un récit. C'est pas comme quand quelqu'un raconte une aventure ou sa guerre ou autre chose. La chose a existé pour elle-même et puis il y a le récit qu'on en fait. Ici, l'essentiel, c'est le récit. Et donc, Hachem a fait quelque chose pour que tu puisses le raconter. Et donc, dans ce récit de la sortie d'Égypte, en fait, c'est pas simplement un récit historique. C'est en fait un acte de révélation intérieure du divin dans l'histoire personnelle. C'est comme ça que Rav Tzolk'a Cohen, qui est un des grands maîtres chassidiques du 19e, expliquait longuement cette idée de la sortie d'Égypte. Mitzrayim, c'est construit sur Metsar. Metsar, ça veut dire étroit. Parce que l'Égypte, c'est la vallée du Nil. Donc c'est extrêmement étroit. C'est donc l'idée de limitation, d'étroitesse en fait. Et donc la sortie d'Égypte, c'est la sortie des limites spirituelles de l'homme, dit Rav Tzedok. Donc ça veut dire révéler comment Hachem nous fait sortir aujourd'hui de nos propres limites. Donc ce n'est pas seulement une mémoire, en fait, c'est une actualisation spirituelle. Alors, il y a bien sûr des gens qui considèrent qu'il faut s'occuper que du récit de ce qui s'est passé. Ce n'est pas la démarche de Rav Tzadok, on va voir que ce n'est pas seulement de Rav Tzadok, ce n'est pas la démarche. Le récit révèle quelque chose qui était caché. La sortie d'Égypte, la délivrance de l'Égypte, elle contient toutes les délivrances ultérieures. Cette idée du lien avec ce qui va se passer par la suite, vous vous souvenez que quand Hachem a envoyé, il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il devait aller sortir les Bnei Israël d'Égypte. Alors, à un moment donné, Moshe Rabbeinu a dit, mais ils vont me demander qui t'envoie, quel nom je vais leur donner. Alors, Hachem a dit, tu leur diras, Eke Asher Eke, je serai qui je serai. C'est ce nom divin-là. C'est-à-dire, si on demande quel est le nom d'Hachem, le nom d'Hachem, celui qu'il a, si on peut parler comme ça, Hachem a dit, a donné lui-même à Moshe en réponse à la question « Quel est ton nom? » C'est « Je serai qui je serai. » Et une interprétation de ce « Je serai qui je serai », je rappelle que les chrétiens, par exemple, ils font très attention de dire non pas « Je serai qui je serai », mais « Je suis qui je suis ». Nous disons ça au futur. Dans la Torah, c'est au futur. Ce n'est pas du tout une question de je suis qui je suis, cette tautologie-là. Et qu'est-ce que une des explications qu'Hachem a données à ce nom je serai qui je serai, ça veut dire dis-leur aux Bnei Israël que je serai avec eux dans les exils futurs, comme je suis maintenant avec eux dans cet exil. C'est là-dessus que Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, ça je peux pas vendre un truc pareil, d'accord, venir dire aux gens, Rabotai, on va sortir d'Égypte, mais je vous rassure tout de suite, il y aura d'autres exils, il y aura d'autres exils, n'ayez pas peur, il va y en avoir d'autres. Alors Hachem dit, ok, alors dis-leur simplement, je serai. Donc ce nom de Eke Asher Eke est un nom qui ne revient jamais dans la Torah. Hachem, on n'utilise jamais ce nom-là. On passe après, on va passer le nom d'Hachem, c'est Yud-Ké-Vav-Ké. Mais Eke Asher Eke, c'est ce qu'Hachem a répondu à Moshe, mais ensuite ce nom-là disparaît du texte de la Torah. Et donc il y a déjà ce lien entre la délivrance, la sortie d'Égypte, la libération. Et toutes les autres libérations, les libérations ultérieures. Et donc, quand on raconte cette histoire, on révèle, on dévoile, en fait, la providence cachée dans l'histoire. On fait apparaître les racines de toutes les délivrances ultérieures. C'est pour ça que le récit, on avait dit, le récit, il ne se fait pas n'importe comment. Il y a des règles dans ce récit. Et une des règles, c'est que il faut commencer par le côté honteux, le côté négatif de l'esclavage, et aller vers la louange d'Hachem. Bon, on va vers le Hallel de la fin de. Et dans ce récit, on va montrer comment le mal se transforme en libération. Et on avait dit, où est-ce qu'on voit cette transformation? On le voit dans la Matzah. La Matzah, au début du Seder, on la présente, ah, lachma aniya, ceci est le pain pauvre. Pain pauvre parce qu'il est la forme la plus pauvre du pain. On ne peut pas faire du pain avec moins que de la farine, de l'eau et du feu, c'est tout. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de miel, il n'y a rien, donc, il n'y a pas de levain, etc. Et puis c'est aussi le pain du pauvre. C'est la raison pour laquelle on casse la matzah en début du seder, on casse une des matzot en deux pour fabriquer un morceau de matzah. Parce qu'un pauvre, il n'a pas un pain entier. Il a un morceau de matzah. Et donc, on va fabriquer le morceau. Donc ceux qui ont trois matzot au départ, il y en a deux qui sont les matzot, et ces deux pains, comme Shabbat, comme Yom Tov, on fait motzi sur deux pains entiers, plus un morceau au titre de Pessah. La matzah comme pain du pauvre, le morceau. Et donc la matzah entre le début, où elle est présentée comme matzah du pauvre, et la fin, quand on la présente comme la matzah de la libération, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est la même matzah. Bon, on avait proposé comme explication de dire que la matzah, elle est bombardée par le récit. Et ce récit passe de l'esclavage à la liberté, de l'esclavage au sauvetage, à la délivrance. Et donc, en même temps, la matzah se transforme par ce bombardement. C'est pour ça que, durant toute la soirée, il faut que les matzot soient découvertes. On va les couvrir seulement quand on va boire du vin, pour des raisons purement techniques, parce que quand on a du pain et du vin devant soi, on doit faire la bracha d'abord sur le pain. Or, nous, on fait le contraire, on fait la bracha, comme dans Kiddush, etc., on fait la bracha sur le vin d'abord. Alors, pour ne pas faire honte au pain, en quelque sorte, on le couvre. Il y en a qui l'enlèvent. Il y a des gens qui font Kiddush sans qu'il y ait du pain sur la table. Comme ça, nous, on fait quelque chose de paradoxal. On en met, on le couvre. Alors, on ne le met pas. Donc ici, on voit très bien que ce qui est à l'œuvre, c'est la parole. C'est pas la transformation dans le récit, dans la matzah, etc. Tout ça, c'est l'œuvre de la parole. Donc raconter, il ne s'agit pas du tout, par exemple, de lire la Haggadah de Pessah avec les yeux. Ça n'aurait strictement aucun intérêt. Ce n'est pas un récit. Et donc, on va faire passer, en fait, quand on raconte la délivrance elle-même, de la mémoire à un vécu intérieur. Une connaissance abstraite en une émouna, confiance vécue. C'est pour ça que la mitzvah est de raconter et pas simplement de lire. La parole, elle va agir sur la neshama, sur l'âme. Alors évidemment, il y a il y a un paradoxe qui est que tout ça, nous le faisons dans la nuit, c'est-à-dire dans la soirée du 15. C'est un peu étonnant parce qu'on est sorti d'Égypte le matin. N'est-ce pas là? Si vous vous souvenez, Hachem avait dit à Moshe, dans la nuit du 15, à Hatzot, à minuit, je vais faire mourir tous les premiers-nés, humains, animaux, etc., de l'Égypte. Et à ce moment-là, Paro vous renverra. Là-dessus, il va céder. Ça deviendra insupportable. C'est ce qui s'est passé. Donc à Hatsot, Hachem est venu, il y avait une clameur dans toute l'Égypte. Il y avait pas de maison, il n'y avait pas de mort. Alors Paro a dit, il a cherché Moshe, et il lui a dit, partez, partez, mais partez vite, parce que tant que vous êtes encore là, ça meurt chez nous. Alors Moshe a dit, non, on ne va pas partir comme des voleurs en pleine nuit. Et deuxièmement, on ne va pas partir avant que tu nous aies signé un acte disant que nous ne sommes plus tes esclaves. Ce n'est pas que officiellement nous sommes tes esclaves, seulement nous sommes partis, tu n'as pas pu nous empêcher de partir. Non, on a besoin d'un papier comme quoi tu déclares que nous ne sommes plus tes esclaves. Le Midrash dit qu'au départ, Paro ne voulait pas signer ce papier. Alors, mon cher Rabbi, il a dit, on n'est pas pressé, nous. On va attendre. Non, évidemment, paroi scellée. Alors, Absalok, il explique. Ah ouais, lorsque je ne suis pas allé jusqu'au bout. Et donc, quand on est sorti, c'était le matin déjà. Et donc, la sortie d'Égypte, on devrait la commémorer au petit déjeuner. Ce serait original. D'accord? La soirée du Seder au petit déjeuner. Breakfast in Mitzrayim. Alors, le Rav Tzedok explique pourquoi. Pourquoi c'est la nuit? Évidemment, la nuit, elle représente, symbolise ce qu'on appelle Hester Panim. Hester Panim, c'est le visage caché, le visage voilé. C'est-à-dire l'obscurité de l'exil. Dans l'exil, on ne voit pas, dans l'exil, on ne voit pas Hachem agir. Quand les Bnei Israël étaient en Égypte, ils ont vu, dans les Makot, on voyait l'action divine à l'œuvre. Quand on est en Galoute, on ne voit rien. Et donc le récit de la sortie d'Égypte qui se fait la nuit veut dire que nous, dans la nuit, nous devons nous révéler la lumière divine au cœur même de l'obscurité. Ça veut dire la délivrance, elle ne vient pas après l'obscurité, elle naît à l'intérieur de l'obscurité. Et ça fait penser au fait que elle est coincée à la deuxième porte, ou bien elle n'est pas entrée. Ça fait penser au fait que, comme vous savez, la paracha du Korban Pessah, elle est dite tout de suite après qu'Hachem nous est donné ce fameux nouveau calendrier, ce calendrier qui commence avec un mois du printemps. C'est une des conditions pour Pessah. Pessah doit être au printemps. Alors, comme nous avons un calendrier lunaire, dans un calendrier lunaire, on prend 11 jours de retard par rapport au calendrier solaire. Et le problème, c'est que la nature, elle fonctionne avec le calendrier solaire et pas avec le calendrier lunaire. C'est pour ça que les musulmans, ils ont un Ramadan qui se balade dans toute l'année, parce qu'ils sont en calendrier lunaire. Et nous, on ne peut pas faire ça, parce qu'on a l'obligation d'avoir Pessah au printemps. Alors, en fait, puisqu'on se décale d'11 jours, au bout de 3 mois, on est pratiquement décalé d'un mois. Au bout de 3 ans, pardon. On est décalé d'un mois, 3 fois 11 jours. Et donc, à peu près tous les 3 mois, tous les 3 ans, on ajoute un mois supplémentaire qui s'appelle Adar Sheni, deuxième Adar. On ajoute un mois supplémentaire. Donc, l'année, à ce moment-là, cette fois-ci, l'année a 13 mois et pas 12. Pour être en phase. Alors, la paracha, le morceau de la Torah qui nous donne la mitzvah de faire le Korban Pessah, il commence par le fameux Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, ce mois-là est pour vous le premier des mois de l'année. Et ça, c'est une mitzvah. Ce texte-là, c'est la première mitzvah que nous avons reçue en tant que peuple. C'est la mitzvah de Kiddush HaChodesh, littéralement de sanctification du mois. C'est-à-dire que la première mitzvah, elle consiste en la chose suivante. On a un calendrier lunaire. Par conséquent, un mois lunaire commence avec la naissance de la phase visible de la Lune. C'est-à-dire la Lune à un moment où elle disparaît complètement, et puis elle commence à naître. Donc il y a un tout petit croissant de Lune. Alors, c'est ce croissant de Lune qui est le commencement d'un mois lunaire. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Dans la Torah, ce n'est pas comme ça. Ils n'ont pas directement comme ça. Le nouveau mois, il commence quand deux Juifs ont vu cette nouvelle lune commençante. Ils ont pris leur voiture. Ils habitent dans le Galil. Ils ont pris leur voiture. Si c'était Shabbat, ils voyagent en voiture. Ils foncent à Yerushalayim. Ils vont au Sanhédrin et ils témoignent devant le Sanhédrin, nous avons vu la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, ça se calcule. À ce moment-là, on savait calculer, donc les Chachamim savaient si c'était possible qu'ils aient vu. Mais même si c'est possible, c'est pas dit qu'ils l'ont vraiment vu. Peut-être ils ont confondu avec un petit nuage, etc. Donc, on va les interroger. Et quand on aura vérifié qu'ils ont vraiment vu la nouvelle lune, le président du Sanhédrin va proclamer le nouveau mois est commencé. Alors, peut-être que le nouveau mois va commencer un jour après qu'on pouvait voir la nouvelle lune. Peut-être même des fois le Sanhédrin qui va décider de ça avant que il est souverain. Ça veut dire que nous, on n'a pas très envie d'avoir Yom Kippour juste avant ou juste après Shabbat. C'est compliqué. Alors, si des témoins viennent et disent, on a vu la nouvelle lune de Tishri. Et donc, si on vérifie, si on est en possibilité de dire, voilà, le nouveau mois est commencé, mais si on décide que c'est ce jour-là que commence le mois, le 10 du mois, Yom Kippour va tomber vendredi ou dimanche. On ne veut pas ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se décale. Le tribunal ne déclare pas le nouveau mois commencé, il le déclarera le lendemain. Et donc on va se décaler. Il y a même une halakha très intéressante qui dit que si un tribunal, même si le tribunal s'est trompé ou s'ils ont fait exprès, etc., peu importe. C'est leur décision qui compte. Ils sont souverains. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole humaine, les décisions humaines sont supérieures au temps. Il y a un temps de la nature qui est donné par la nouvelle lune. Et nous considérons que ce que nous disons, ce que nous, notre parole, la parole du Sanhédrin, est plus puissante. C'est elle qui décide, y compris contre l'évidence physique du fait qu'on peut voir déjà, on a vu la nouvelle lune. Ok, tu l'as vu. Moi, ça m'arrange pas. Moi, Sanhédrin, ça ne m'arrange pas de dire que le mois est commencé maintenant. Je le déclarerai demain. Commencerait. Donc, ça veut dire qu'avant la libération, avant la libération, alors que nous étions encore esclaves formellement de Paro, ça faisait 6 mois qu'on ne travaillait plus pour Paro, mais on était formellement encore les esclaves de Paro. À ce moment-là, on a reçu la première mitzvah. Mais la mitzvah en question, qu'est-ce qu'elle était? La maîtrise du temps. C'est-à-dire que nous maîtrisons le temps, donc il y a une maîtrise du temps avant même qu'on parle de libération, avant la sortie de l'esclavage. Parce qu'en vérité, le plus grand metteur en esclavage, c'est le temps, esclave du temps. Nous ne sommes pas esclaves du temps. Nous maîtrisons le temps. C'est une des choses que les Grecs n'ont absolument pas acceptées. à l'époque, qui a donné Hanouka, quand on était sous domination grecque, ils avaient interdit qu'on célèbre Rosh Chodesh, qui est le moment où on dit nous sommes la parole humaine est plus forte, la parole du Sanhédrin est plus forte que le temps. Et eux, ils disaient que c'est impensable de penser une chose pareille, et donc ils nous ont interdit de faire Rosh Chodesh. Donc, il y a une situation qui s'appelle Hester Panim, c'est-à-dire on ne voit pas l'intervention d'Hachem. Et donc, tout notre travail, c'est au sein même de l'obscurité de l'exil, de révéler la lumière divine. Et donc, la délivrance ne vient pas après l'obscurité, elle naît au milieu, à l'intérieur de l'obscurité. On avait dit qu'une autre question, une autre contrainte dans le récit, doit avoir et obéir à des règles. Une des règles, c'est que ce récit doit se faire sous forme de questions-réponses. Alors, dans le texte, c'est marqué, tu raconteras à ton enfant, à ton petit-enfant. Donc, ce n'est pas le récit, on raconte une aventure à ses copains. C'est un récit, mais qui est un récit vertical, c'est-à-dire qui va du père, enfin, du parent, vers les enfants. Ce n'est pas un récit horizontal. Ce système des questions-réponses de la Haggadah il est donc central, puisque c'est une condition sine qua non. La Gemara dit que si quelqu'un, comme c'est arrivé récemment, à l'époque du Covid, il y a des gens qui ont fait le Seder tout seul. Quelqu'un qui fait le Seder tout seul, il doit se poser des questions, il change de casquette et il répond aux questions. Alors, pour Rav Tzodok, la question, elle vient d'un manque intérieur. Mais ce manque, c'est-à-dire si on ne sent pas qu'on est en manque, alors on ne peut pas recevoir la révélation. Une nuit du Seder où on parle à quelqu'un qui ne se sent pas du tout en manque, il n'y a pas de révélation. Il ne va pas recevoir la révélation. Et donc, dans la nuit du Seder, on reproduit la dynamique de la sortie d'Égypte. Pourquoi on est sorti d'Égypte? Sorti d'Égypte, en ce qui nous concerne, parce qu'on a crié. Pourquoi est-ce qu'on a crié? Parce qu'on était tellement à l'étroit. Les conditions étaient telles on n'en pouvait plus. On était à la recherche. Chacun était à la recherche de son souffle. On dit qu'ils n'ont pas pu entendre ce que Moshe leur disait, Mikotser Ruach, parce qu'ils étaient, ils étaient. Quand on est à la recherche de son souffle, la seule chose qui nous intéresse, c'est de trouver son souffle. Il n'y a pas, tu regardes ni à gauche ni à droite, c'est où est-ce que je vais trouver de l'oxygène? Quand les Bnei Israël sont arrivés à cet état-là, où ils n'en pouvaient plus, enfin ils ont crié. Qu'est-ce qu'ils ont crié? On n'en sait rien en fait. Qu'est-ce qu'on crie quand on n'en peut plus? On crie maman, qu'est-ce qu'on crie? Hachem a validé le cri comme si c'était un cri qui était dirigé vers lui. Il a considéré que les Bnei Israël l'ont appelé au secours en quelque sorte. Et donc la délivrance est arrivée, la libération est arrivée suite à ce cri, suite au fait que on s'est senti complètement à l'étroit. Et donc la question, le fait qu'on pose des questions pour commencer, parce que ces questions, elles doivent, normalement, elles devraient venir d'un manque intérieur. Il me manque il y a quelque chose qui me manque. En fait, chaque année, la sortie d'Égypte se renouvelle réellement. Et le récit va permettre de révéler un aspect nouveau de cette délivrance. En d'autres termes, la mitzvah de raconter, c'est la mitzvah de produire un chidouche spirituel. Produire un renouveau spirituel. C'est pour ça que même un grand Talmid Chacham doit aussi raconter la sortie d'Égypte. Dans la Haggadah, c'est marqué Afilu Kulanu Chachamim, même si nous étions tous des sages, il y a quand même la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Ça, c'est la démarche de Rav Tzedoka Cohen. On va regarder une autre démarche. Regardez la démarche d'un autre maître, je trouve être aussi un maître hassidique, le Sfat Emet. Le Sfat Emet, c'est 1847-1905. Lui, il interprète le. Justement, cette sortie d'Égypte à sa manière. Alors voilà ce que dit le Sfat Emet. C'est toujours chassidique, mais c'est une autre chassidoute. Donc, il fait remarquer que les fêtes, les moadim, les fêtes, ce sont des rendez-vous avec Hachem. Un moed, c'est un rendez-vous avec Hachem. Mais ce ne sont pas seulement des commémorations. On ne va pas commémorer la sortie d'Égypte. Pour le Sfat Emet, les fêtes, c'est des moments où la même lumière spirituelle revient dans le monde. Donc ça veut dire qu'à Pessah, la lumière qui a représenté la délivrance, la sortie d'Égypte, elle revient dans le monde. Donc ça revient chaque année. Et la mitzvah de raconter, c'est ce qui va permettre de s'ouvrir à cette lumière qui revient chaque année. En d'autres termes, le récit est comme une espèce de récipient spirituel pour recevoir cette lumière. Si on ne raconte pas, la lumière est là, elle existe, mais il n'y a pas d'homme pour la recevoir. Donc pour le Sfat Emet, la Géoula, elle vient d'en haut. Et le récit permet de capter cette lumière qui arrive d'en haut. On avait dit pour Rav Sadok, la logique est complètement différente. On avait vu pour Abdallah toutes les délivrances sont contenues dans la sortie d'Égypte. Mais elles restent cachées. Et pour Abdallah, le récit sert à dévoiler les racines cachées, faire apparaître dans l'histoire personnelle ce qui était latent. Donc, pour Abdallah, la délivrance est cachée dans l'homme et dans l'histoire. Et le récit révèle cette délivrance. Donc, ces deux modèles spirituels, pour le Sfat Emet, c'est comme un mouvement d'en haut vers en bas, du ciel vers l'homme, alors que pour Abdallah, c'est un mouvement de l'intérieur vers la révélation. Pour le Sfat Emet, c'est une lumière spirituelle qui revient dans le temps. Pour Abdallah, ce potentiel spirituel est déjà caché dans l'histoire. Pour le Sfat Emet, le récit reçoit la lumière. Pour le Abdallah, le récit révèle la lumière. En fait, ça veut dire que ils ont une différence sur ce que c'est que la notion de chidouche, de renouveau. Pour le Sfat Emet, le renouveau, il vient de cette lumière divine qui revient. Et pour Rabsodoc, le renouvellement vient de la révélation d'une profondeur déjà contenue dans la Torah et dans l'histoire. En d'autres termes, pour le Sfat Emet, le renouvellement, il est à l'échelle de l'univers, cosmique, si vous voulez. Et pour Rabsodoc, c'est un renouvellement intérieur qui est dans le travail sur la signification, c'est-à-dire, pour le dire avec des termes compliqués, c'est dans l'herméneutique, en fait, qui permet d'interpréter le texte. Conséquence pour la Haggadah de Pessah. Dit dans la Haggadah de Pessah, Kol ha-marbeh le-saper b'yitziat Mitzrayim harei zeh meshubach. Il veut dire, tout celui qui raconte encore plus de sortie d'Égypte, il est digne d'éloge. Alors, le Sfat Emet, il dit, plus on raconte, plus on ouvre de canaux pour recevoir la lumière de la sortie d'Égypte, en fait, de la délivrance. Et pour Rav Tzadok, plus on raconte, plus on révèle des couches cachées de cette délivrance.
Ça veut dire que,
Pardon?
excuse-moi, ça veut dire que pour la révélation de ce qu'on peut capter au moment du Seder, elle se fait par une captation de cyclique. C'est ça, c'est par le cyclique.
Il faut être réceptif, se rendre réceptif, offrir un cli qui peut recevoir la lumière. Je veux te donner, mets-toi en position de pouvoir recevoir ce que je veux te donner. C'est déjà là. C'est dans le pour Rav Tzadok, c'est là, c'est caché dans la conscience. Et dans l'histoire. Donc, il faut dévoiler des choses qui sont là. C'est pas qu'il faut se mettre en position de les recevoir, c'est la position de le dévoiler. Oui, enfin, c'est deux types d'activités. Une activité, vous pourriez dire, c'est une activité de fabrication des kélim pour recevoir. Bon, il faut que je me travaille pour offrir des canaux par lesquels la lumière va pouvoir arriver chez moi. Pour Avsadok, il faut creuser. C'est là. Va le chercher. On va voir une troisième approche. C'est en nous, c'est dans ma conscience et dans l'histoire. Les choses sont là seulement, il faut les trouver, il faut trouver la bonne poche pour l'instant. Tandis que pour Sfatemet, ce n'est pas là, il faut que c'est prêt à venir si tu veux. C'est-à-dire, mets-toi en position de recevoir. C'est le ciel qui vient, qui descend vers nous. Pardon?
Pas dit qu'il pourrait arriver à un moment pour être en s'obéissant en syntonie.
En quoi?
En syntonie, c'est un mot d'abord.
Vous inventez les mots au fur et à mesure? Okay.
Qui a bien ce mot? Je pense que la France ne peut pas. C'est-à-dire, à un moment, la chose est là, et à un moment, comme vous avez dit, il faut que je me travaille et arriver à ce niveau, et bien ça va rentrer en.
Non, ça ne va pas rentrer. Pour Avtsadok, c'est là, ça n'a pas besoin de rentrer, ça doit émerger parce que c'est au fond. Il y a des couches, il faut enlever les couches pour accéder à ça. Mais c'est en moi, c'est aussi dans l'histoire. Il faut lire l'histoire, il faut que l'histoire se déroule et que là, tu la lises et tu vas voir. Lui, il ne parle pas d'un cli. Celui qui parle d'un cli, c'est le Svatémet. Alors, Mahlokhet, c'est tous les deux des grands maîtres hassidiques, mais ils ont une vision complètement différente du monde. Pessah, ils font tous les deux Pessah.
Et donc, c'est ça, c'est lui qui fait ça en utilisant l'histoire.
Lui, il utilise l'histoire et aussi la nature, ce qu'il voit. Il voit les choses et il interprète ce qu'il voit. Mais il s'est aussi mis dans la. Il s'est mis aussi en position de recevoir. On va regarder une autre approche, cette fois-ci non chassidique, de Rav Yitzhak Koutner. Rav Yitzhak Koutner, c'est un presque contemporain. C'est, disons, c'est la génération de mon grand-père, disons, entre mon père et mon grand-père. C'était un génie lituanien qui a fait sa carrière essentiellement comme Rosh Yeshiva en Amérique. À la fin de sa vie, il était toujours Rosh Yeshiva en Amérique, mais aussi Rosh Yeshiva en Israël. Mon maître, le Rav Volbé, allait souvent le voir pour discuter avec lui. Il m'a même une fois envoyé parler. Je lui ai parlé à Rav Koutner. Malheureusement, c'était un mois avant qu'il ne disparaisse. Je suis pris trop tard. C'était un très très grand bonhomme. Lui, il explique que le récit du Seder, c'est pas seulement raconter une histoire, mais c'est recréer l'événement. Ça change complètement la compréhension de la Haggadah. Et on peut faire une comparaison entre deux grands maîtres, entre lui et un autre maître américain, qui était Rabbi Sheber. Soloveitchik de Boston. sur la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, de raconter la sortie d'Égypte. Tous les deux voient dans ce récit beaucoup plus que simplement un récit. Mais eux aussi, ils développent, ces deux Lituaniens, ils développent deux logiques différentes. Pour Rav Yitzhak Koutner, comme je vous ai dit, il s'agit de recréer l'événement. Il fait remarquer ce fait halakhique étonnant. Il questionne, ce dont on a parlé déjà ce soir encore une fois, pourquoi est-ce que la Haggadah, elle commence par le négatif, elle finit par la louange? Pourquoi on commence, Avadim haïnou le pharaon de Mitzrayim, on était esclaves, et elle termine par la louange? C'est pourquoi cette structure-là? Pourquoi on ne pourrait pas faire, par exemple, ben on va commencer tout de suite par la louange, etc., et on va faire un flashback qui va permettre de raconter comment on y est arrivé. La Torah, elle a dit, c'est pas comme ça que je veux que vous racontiez. Parce qu'en fait, on veut que la mitzvah parcourt le processus de la délivrance. Ce que je vous ai dit sur l'évolution de la matzah, d'accord, en fait, c'est une évolution de celui qui raconte. Nous sommes modifiés par le récit que nous faisons. Si vous voulez, le récit, il nous transforme, il transforme celui qui parle. En d'autres termes, on entre dans la condition d'esclave, on ressent l'exil. Et on arrive à la délivrance. Ça veut dire que le récit devient une expérience spirituelle structurée. Bon, d'après Rav Yitzhak Koutner, le Seder, c'est vraiment une reconstitution, même une reconstruction existentielle de la sortie d'Égypte. Pour Rav Soloveitchik, c'est transformer la mémoire en expérience. Il dit, il y a deux choses. Il y a le Zecher l'Yetziat Mitzrayim, où on dit par exemple dans le Kiddush de Shabbat, dans le Kiddush on fait Kiddush aussi, parce que le Shabbat, on parle de trois Shabbatot. Il y a le Shabbat de Bereshit, le Shabbat de Matan Torah et le Shabbat de la fin de l'histoire. Et donc on dit Zecher le Maaseh Bereshit. Zecher l'Yetziat Mitzrayim, souvenir de la sortie d'Égypte. Mais au Seder, c'est autre chose. Au Seder, c'est pas Zecher, c'est Sipour, récit, raco, Haggadah. Le récit va transformer la mémoire en une expérience vécue. Tous les jours, deux fois par jour, on dit le Shema du matin, le Shema du soir. Dans le Shema, dans le troisième paragraphe du Shema, on parle de la sortie d'Égypte. Et donc, on s'en souvient deux fois par jour, tous les jours de notre vie. Shabbat, Yom Tov, Yom Kippour, tous les jours, on se souvient de la sortie d'Égypte. Et ça, c'est Zecher, c'est le souvenir. Mais il y a un jour dans l'année, pour nous ça fait 2 jours, mais en dehors d'Israël, mais un jour dans l'année où c'est plus simplement un souvenir, c'est une expérience vécue. Et c'est pour ça, dit Rabbi Soloveitchik, que la structure aussi, l'autre structure, c'est question-réponse. Et puis des symboles, matzah, maror, et des gestes. On va manger accoudé, on va tremper la nourriture. Ce sont des gestes. Et donc il y a dans c'est une espèce de pédagogie, puisque c'est fait à l'intention des enfants, une pédagogie existentielle, si on. Donc la grande différence entre Rabbi Tzvi Koutener et Rabbi Yochebed Soloveitchik, c'est pour Rabbi Tzvi Koutener, c'est recréer le processus spirituel de la délivrance. Pour Rabbi Soloveitchik, c'est transformer la mémoire en expérience éducative. Donc pour Rabbi Tzvi Koutener, c'est une structure, on parle de la structure métaphysique, en fait, de l'événement. Pour Rabbi Soloveitchik, c'est la structure halachique et pédagogique. Pour Rabbi Tzvi Koutener, c'est une reconstitution spirituelle. Et pour Rabbi Soloveitchik, c'est une espèce de dramatisation éducative. D'accord? Il y a tout un théâtre, en fait. On met le plat sur la table, on l'enlève, on le remet, on enlève les matzot, on enlève le zroa, il y a toutes sortes de choses qu'on fait. Alors, on voit leurs différences aussi dans leur lecture. Dans la Haggadah de Pessah, on dit Bechol dor vador, dans chaque génération, il y a des gens qui se lèvent pour essayer de nous détruire, et Akadosh Baruch Hu nous sauve à chaque fois. La preuve, c'est qu'on est là encore. Et donc on dit Bechol dor vador, Chayav Adam lirot tatzmo keilu hu yatsa mimitzrayim. Dans chaque génération, l'homme a l'obligation de se considérer comme s'il était, lui, sorti d'Égypte. Donc, c'est clair pour Rabbi Tzvi Koutener, il faut revivre ce mouvement même de la délivrance, en fait. Et pour Rav Soloveitchik, il faut se percevoir historiquement comme membre de ce peuple qui a été délivré. Il ne demande pas de vivre l'événement lui-même, le mouvement lui-même. Bah, Rabbi Tzvi Koutener, il dit pas tu dois considérer physiquement comme c'était là-bas, mais le mouvement, comme pour lui, c'est quelque chose qui revient régulièrement. D'accord? Dans l'histoire juive, on n'est pas dans l'éternel retour de Nietzsche et des autres. Oui. On est effectivement dans un retour, mais à chaque fois à un autre étage. C'est une spirale, ce n'est pas un cercle. En projection, c'est un cercle, mais c'est une spirale. On repasse toutes les années par la même étape qui s'appelle le 15 Nissan. Il y a une autre étape qui est le 15 Tishri, le Sukkot. On repasse régulièrement, mais pas. On espère ne pas pédaler dans la semoule, quoi. On espère qu'on a avancé. On remonte, donc c'est une spirale ascendante.
Comment Soloveitchik, il établit le lien entre cette expérience pédagogique et le fait que l'on se sent appartenir au
Ça qu'il faut, c'est la difficulté. Hayav Adam lirot et tatzmo. On doit se considérer comme. Pour Rabbi Tzvi Koutener aussi, tu dois te considérer comme étant dans ce fameux mouvement dans l'an machin chouette, et l'année où on est sorti d'Égypte, ce mouvement, il a fait la sortie d'Égypte. Ce mouvement, il est encore à l'œuvre aujourd'hui et il doit nous libérer aussi de nos contraintes, d'un éventuel esclavage, que ce soit l'esclavage du temps, esclavage. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ce que ils vivent aujourd'hui, une vie d'esclave. Bon, ils sont complètement surveillés en permanence, dirigés. Aujourd'hui, il y a un nouveau métier qui s'appelle l'influenceur. Il faut être débile pour accepter des influenceurs. Ça veut dire, j'ai besoin qu'on m'influence. Ça marche bien, hein? C'est une carrière. Essayez, c'est influenceur. Bon, si vous arrivez à entraîner les gens à choisir la même sorte de petit pois que vous, c'est un influenceur.
Pour changer de sujet d'influence et des influences,
Pardon?
pour changer de thème d'influence et aussi vous influencer. Vous proposez
Écoutez,
la vie, elle est là, mais.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais rien ne vous empêche de résister. C'est pour ça que vous permettez de dévoiler les secrets de la fabrication, là. Pardon?
Je ne pas du tout dans le sur
Non, t'es
les
pas
hommes.
obligé de me défendre.
Non,
Justement, si vous voulez, justement, la Torah, c'est une éducation pour que on puisse apprendre à parler, à penser tout seul, justement, à se libérer de toutes ces influences de la société. Aujourd'hui, rien que la langue que nous utilisons est une langue qui est influencée. D'accord? On vit aujourd'hui, la génération de mes petits-enfants, ils n'utilisent plus le mot trait. C'est trop. On dit plus trait. Bon, c'est trop
Ah, c'est
bon. C'est trop bon. C'est pas c'est très bon, non, c'est trop bon. Pourquoi trop
bien ça. C'est trop bon.
bon? Je me souviens très bien qu'il y avait un moment où les gens disaient à tout bout de champ, et on était pris par ça, j'assume. C'est un nouveau mot comme ça, j'assume. On n'assumait rien du tout, mais j'assume. On est influencé par ça.
J'avais aimé au début, dès le début. On avait parlé d'influence, il avait été dit, peut-être, il y avait Claude Lemay qui représentait aussi avec tout ça. De toute façon, on est influencé. Autant être influencé par la vie.
Bien sûr.
Et ça avait un grand équilibre chez moi.
Non, mais c'est. Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui en font un métier, que des gens influencent, c'est sûr, qu'on est influencé, c'est sûr. C'est un des problèmes du Galout, c'est que on est dans un pays avec des gens qui pensent d'une certaine manière et on est influencé. Un juif français, il pense pas de la même manière qu'un juif américain ou un juif israélien.
Utiliser les signes, vérifier ces dates pour pouvoir faire comme si on était sorti d'Égypte, c'est pratiquement. C'est de ça dont on dispose pour pouvoir aussi revivre le processus de la délivrance.
Oui, c'est deux démarches complètement différentes qui, bon, ça revient à construire un juif, mais bon. Donc pour Rav Yitzhak Koutner, le fait que la sortie d'Égypte, c'est l'archétype de toutes les délivrances, ça veut dire que toute délivrance suit toujours le même schéma, c'est. Ça devient trop étroit, on est coincé, on crie, il y a une révélation et il y a la libération. Et donc, d'une certaine manière, la soirée du Seder, elle enseigne la structure même de cette délivrance. Chez Rav Soloveitchik, en fait, le Seder, c'est le moment où la tradition devient personnelle. Ce n'est pas nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte. C'est nous sommes sortis d'Égypte. La mémoire collective, elle devient une identité personnelle. À la question de, on a posé déjà au début, pourquoi on fait le seder la nuit alors qu'on est sorti en plein jour? Le Maharal de Prague répond que la nuit, c'est le moment où il y a une réalité nouvelle qui naît. Ou pour le Maharal, la nuit, elle symbolise la situation avant la révélation. C'est-à-dire la gestation d'une réalité nouvelle. Et le Maharal dit que toute création fonctionne aussi sur le modèle d'abord obscurité, gestation, révélation. Et la sortie d'Égypte, elle a ce schéma aussi. La nuit de Pessah, c'est la naissance d'Israël. Et le jour, c'est la manifestation visible de cette naissance. Le Seder est au moment où la délivrance est en train de naître. Vous vous souvenez, je crois que j'avais dit, avant qu'on commence réellement à parler du Seder, j'avais dit que il y a dans l'histoire toujours cette structure d'une époque qui atteint son apogée, ensuite ça descend et ça meurt. Et il faut qu'il y ait cette mort pour qu'il puisse y avoir une renaissance. Mais le passage entre cette mort et la vie de la nouvelle, d'un nouveau monde. C'est un passage qu'on ne peut pas du tout expliquer. Vous vous souvenez, on avait dit, en réalité, on parle du Seder comme le récit de la sortie d'Égypte. On me fait remarquer qu'en réalité, dans la Haggadah, il y a un récit assez long de ce qui se passait avant qu'on sorte d'Égypte, un récit assez long de ce qui se passe après qu'on soit sorti d'Égypte. Mais quand il s'agit de zoomer sur le moment où on est sorti d'Égypte, alors on a une phrase. Hachem dit, Lo al yedei shliach, lo al yedei saraf, lo al yedei malach, etc. Ça veut dire, on n'est pas sorti d'Égypte parce qu'il y a eu une révolution, pas parce qu'il y a eu un changement de dynastie, pas parce qu'il y a eu un tsunami, pas parce qu'il y a eu une guerre, pas parce qu'il y a eu un tremblement de terre, pas parce qu'il y a eu la décolonisation. De rien de ce que tu peux imaginer, c'est jamais ça l'explication de la sortie d'Égypte. Et la maille, alors, dans quoi? C'est marqué, Ela Akadosh Baruch Hu, Ichvodo Ubatsmo. C'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte. Et dire que c'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte, ça veut dire, tu peux rien y comprendre, parce que c'est Hachem qui a agi directement. On n'en sait rien. Mais de la même manière, on ne peut pas comprendre comment Noach a survécu au déluge. Vous croyez réellement que cette petite arche-là, elle pouvait, d'après ce que Chazan nous raconte de ce qu'était le déluge, ça n'avait aucune chance de tenir le coup. Vous croyez vraiment que quand Abraham a passé par la fournaise dans laquelle Nimrod l'avait jeté, il pouvait s'en sortir? Non. On ne sort pas vivant d'une fournaise. Vous croyez vraiment que le clan Israël, il avait une possibilité de survivre à la destruction du Beth Amikdash et à l'exil en Babel? Vous connaissez un peuple qui a survécu à ce genre de choses? Ça n'existe pas. Ah, et comment a survécu? Ça c'est l'intervention d'Hachem. Ça veut dire, c'est inexplicable. Ça ne s'est pas passé ni dans le monde d'avant le déluge, ni dans le monde d'après le déluge. Ça s'est passé pendant le déluge. Il y a une intervention divine qui a fait que Noé a survécu. Une intervention divine, là c'est très clairement dit sur Abraham Avinu. Quand Nimrod a jeté Abraham Avinu dans la fournaise, Hazal disent, l'ange Gabriel a dit, je vais aller, je vais éteindre le feu. Et Hachem a dit non, non. Abraham, il est tout seul dans son monde. Il est unique, Abraham, à ce moment-là. Moi, je suis unique, dit Hachem. Il convient que ce soit l'unique qui s'occupe de l'unique. C'est moi qui y vais. Donc, c'est Hachem qui a sorti Abraham de la fournaise. C'est pas un miracle au sens où Gabriel, il a éteint le feu, ce qui aurait été de toute manière un miracle. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. On n'a pas éteint le feu. Abraham Avinu a protégé Abraham. Hachem a Akadosh Baruch Hu a protégé Abraham, c'est tout. Et il a sorti du feu. Il ne s'agit pas d'éteindre le feu, de lui mettre je sais pas, une combinaison qui lui permet de résister au feu, etc. Non. Il a sorti, c'est tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était dans la fournaise, et après il est sorti et il était vivant. C'est tout. C'est ça que semble-t-il que dit le Maharal. La délivrance, elle naît dans ce temps hors du temps, où Hachem est en train d'intervenir pour permettre un changement du type de ce qui se passe au niveau des cellules. Les cellules, elles meurent aussi. Elles ont un système qui leur permet de mourir. Ce serait désastreux si elles ne mouraient pas. Il faut qu'elles meurent pour laisser la place à d'autres en particulier. C'est un phénomène nécessaire à la vie. Cette mort-là, elle est nécessaire à la vie.
Adam a jamais créé ce monde.
Non, Adam, il était. Adam lui-même, il a été créé immortel. Quand il a fauté, il est devenu mortel.
Donc,
Quand on était au Sinaï, on est redevenu immortel. Avec le veau d'or, on est redevenu mortel.
ça veut dire qu'un monde peut exister sans la mort.
Pardon?
Mais ça veut dire qu'un monde peut exister sans la mort.
Oui, bien sûr. Mais pas un monde après la faute.
Dans les hommes, ils sont plus du mal. Oui, c'est l'un.
C'est un nouveau monde. Je vous ai dit, dans le monde d'Adam Arishon, Adam il a reçu 6 mitzvot. Noach il a reçu la 7e. Donc Noach il est dans un monde où il y a 7 mitzvot. Ça n'a rien à voir avec un monde où il y a 6 mitzvot. C'est un autre monde. Ouais, le problème, c'est effectivement quand on disparaît parce que le monde a changé, d'une certaine manière, on est autre. On est quelqu'un d'autre, d'une certaine manière. Mais il y a quand même une continuité dans la mesure où Hachem, quand il recrée chaque jour, il ne recrée pas chaque fois à zéro. Il recrée à partir du niveau qu'on avait atteint dans le jour d'avant. Donc c'est pour ça qu'on a des comptes à rendre sur ce qu'on a fait hier, parce que sinon je n'ai pas de compte à rendre sur ce que j'ai fait hier. Je suis aujourd'hui une créature nouvelle qui n'a rien à voir avec hier. On a un peu de cela. On a un peu de cette idée qu'on peut recommencer. On n'a pas obligatoire. On n'est pas obligatoirement embarrassé, empêché par les fautes d'hier, dans le fait que on a déjà parlé de ça. Le Corban Tamid. On a une mitzvah d'apporter un korban tous les jours en deux parties. La première moitié, elle est apportée le matin, au moment où on a ouvert les portes du Bet-Amigdash. Le Bet-Amigdash était fermé pendant la nuit. On ouvre les portes et on apporte le premier korban, qui s'appelle korban tamid, tamid parce qu'on le donne tous les jours. Et puis à la fermeture des portes, juste avant la fermeture des portes, le dernier korban, c'est l'autre moitié de, enfin, du korban qu'on a commencé le matin. Et ce korban, ces korbanot-là, ils ont comme fonction celui du matin, il nous apporte un korban, en général, ça apporte la kapara, c'est-à-dire ça nettoie les fautes, ça nettoie les fautes de la nuit. Ça veut dire que le matin, tu reçois une forme, tu reçois une feuille blanche pour la journée. Alors bien sûr, ça n'annule pas une faute. Si tu as tué ton voisin la veille, c'est pas le korban tamid qui résout le problème. Hein. On parle des fautes standards. Et la même chose, au début de la nuit, tu reçois aussi une feuille blanche pour vivre ta vie durant toute la nuit sans avoir des traces qui pouvaient te handicaper de ce que tu as fait dans la journée. Donc, c'est absolument génial. D'accord? Chaque jour, deux fois une feuille blanche. Donc, ça, c'est cette idée que chaque jour, quelque part, c'est un nouveau jour, c'est quelque chose de nouveau. Là, c'est en plus deux fois par jour. La question, si vous voulez, de... On a touché un petit peu. C'est, en fait, on avait dit la nuit du Seder, la nuit de Pessah, c'est pas seulement un souvenir, pas seulement une histoire, mais un lieu où la vérité de la délivrance devient réelle pour l'homme, en fait. Et on pourrait résumer ça en disant, sans Dieu, si vous voulez, il n'y a pas de vérité. Mais sans l'homme, il n'y a pas de révélation de cette vérité. Et donc on retrouve le chemin dont on a parlé ce soir. On était en Égypte, une forme de passivité, les Bnei Israël ont été réduits en esclavage et ils n'ont pas réagi. Jusqu'au moment où c'est devenu absolument insupportable. Et à ce moment-là, ils sont sortis, ils ont accédé à la liberté. Et cette liberté, dans la Torah, elle est précédée par la mitzvah de Kiddush HaChodesh, la maîtrise du temps. La Torah, elle va orienter le temps. Le Seder, ça va actualiser les choses. Donc tout ça, ça converge, si on peut parler comme ça, vers une idée que la vie spirituelle, c'est une vérité donnée qui demande à être vécue pour être réelle. Il faut la vivre. C'est ce qu'on essaie de faire le soir du Seder, en fait. Mais il y a une question absolument terrible qui est si la vérité a besoin de l'homme pour être révélé. Qu'est-ce qui se passe si un homme refuse? Il veut pas. Je veux pas révéler il veut pas révéler la. C'est-à-dire, c'était toute cette fameuse question du Esther Panim. Le mal. La responsabilité de l'homme dans la révélation de d'accord, je beaucoup dans le monde. Le Maharal dit, la possibilité du refus est fondamentale. Si l'homme ne pouvait pas refuser, il ne pourrait évidemment pas choisir en vérité. Si je ne peux pas dire non, alors mon oui n'a pas beaucoup de valeur. Donc il y a la possibilité de cacher la vérité, ignorer la vérité. C'est la condition même de la liberté. Le Ester Panim, le visage détourné, le voilé, ce n'est pas seulement une punition. C'est une structure de la liberté. La liberté humaine, elle suppose qu'on puisse dire non. Ça, c'est la réponse du Maharal. Rav Yitzhak Kuttner, il dit, le voilement, le Ester Panim, n'est pas l'opposé de la révélation. C'est une étape de la révélation. Pourquoi? Parce que une vérité imposée ne va pas transformer l'homme. Par contre, une vérité découverte dans l'obscurité, elle va, oui, transformer l'homme. Donc la lutte pour révéler la vérité fait partie de la vérité elle-même. Et donc le Ester Panim est nécessaire pour cela. Et Rav Tzedoka Cohen, il pense, de façon peut-être encore plus extraordinaire, il pense que le refus et même le mal peuvent devenir la source d'une révélation plus profonde. Parce que ce qui est tombé très bas peut remonter avec une intensité plus grande. Il y a un principe dans la Gemara qui s'appelle Yerida le Tsoher Aliyah. Des fois, il faut descendre pour pouvoir monter. C'est-à-dire que il faut toucher le fond des fois pour pouvoir remonter. Alors, ils sont tous d'accord pour dire que, visiblement, Hachem accepte que sa vérité ne soit pas visible pour permettre la liberté humaine. Parce que si la vérité d'Hachem était visible, on n'aurait pas le choix. C'est pour permettre aussi la responsabilité, que l'homme puisse dire je réponds d'eux, j'ai à répondre et je réponds. C'est-à-dire une participation réelle. Le grand chidouche, si vous voulez, comme toujours, c'est qu'Hachem veut que l'homme soit son partenaire. Il nous élève au rang de partenaire. Du coup, là, on a une responsabilité absolument incroyable. Parce que si nous ne révélons pas la vérité, elle va rester cachée. Donc le monde va rester opaque. Et donc l'homme devient responsable du niveau de révélation de la présence d'Hachem dans le monde. L'Égypte, c'était justement cette situation où le Ester Panim est maximal. Oppression, confusion, absence apparente d'Hachem. Et c'est la grandeur de la sortie d'Égypte qui joue ce rôle absolument. Il y a plus de 50 fois la mention de la sortie d'Égypte dans la Torah. C'est une révélation qui vient du plus grand voilement possible. La grande révélation de la sortie d'Égypte. Et la nuit du Seder, c'est cette réponse à la nuit en question. On raconte dans la nuit, c'est la nuit, on raconte, on pose des questions, c'est-à-dire on exprime le manque. On reconstruit le sens. On fait exactement le contraire du Esther Panim. Donc, Hachem a créé un monde dans lequel il peut être caché pour que l'homme puisse le révéler. Ça veut dire que la vérité d'Hachem, elle est évidente et c'est sûr, elle est certaine. Mais la présence dans le monde de cette vérité, elle dépend de l'homme. Elle dépend de nous. Et donc la question qui vient, c'est si ça dépend tellement de l'homme, où est la garantie que le bien va triompher? C'est la question de ce qu'on appelle la Géoula finale. Le Maharal, il dit la Géoula, elle est inévitable. Le Maharal, il dit dans Netzach Israël, il dit, la Géoula, ce n'est pas seulement une promesse morale, finalement le bien va triompher. C'est une nécessité essentielle, finalement. Parce que le monde a une structure et cette structure, elle tend vers, dit Maharal, vers une forme de perfection. Le mal est réel, mais il est instable. Le mal, c'est comme le shéker. Le shéker, on dit, il ne se tient pas parce que le mot shéker, shin, kouf, resh, il tient seulement sur un pied, sur un point. Le shin, il tient sur un point, le kouf sur un pied et le resh sur un pied. Alors que Emet, le aleph tient sur deux points, le mem sur une barre et le taf sur deux points. Donc le Emet est stable, le shéker, le mal, shéker, le... Il est instable. Donc, il ne peut pas durer éternellement. Rav Tzadok, il dit, la Géoula, elle vient même du mal, en fait. Comme on avait vu, le mal fait partie du processus de Géoula. Donc, c'est pas que... Pas seulement qu'il va disparaître, mais il va être transformé. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que le mal va être transformé? D'après Tzadok, parce qu'il considère que toute chute contient toujours une étincelle de sens qui peut être révélée. Même quand tu te casses la figure, il y a toujours une étincelle, en tout cas, de sens, et cette étincelle, elle peut être révélée. Donc la différence essentielle entre le Maharal et Rav Tzadok, c'est pour le Maharal, le mal est une anomalie, pour Rav Tzadok, c'est un matériau. Pour le Maharal, il disparaît. Pour Rav Tzadok, il se transforme. Pour Maharal, la Géoula, elle corrige. Évidemment, pour Rav Tzadok, la Géoula, elle révèle. Rav Yitzhak Koutner, il dit, les deux approches ne sont pas obligatoirement contradictoires. Il dit, le mal va disparaître, mais il va disparaître en tant que mal. Mais ce qu'il contenait est intégré. C'est-à-dire, rien n'est perdu. Tout n'est pas conservé tel quel, mais tout est conservé. L'espèce de Lavoisier, quoi. Et pour Rav Soloveitchik, la responsabilité de l'homme reste totale. Même si la Géoula est certaine, l'homme reste totalement responsable. Pourquoi? Parce que la question n'est pas si elle reviendra, si elle viendra, cette Géoula, mais comment elle viendra. Donc on est responsable que la Géoula se produisent de la bonne manière, en quelque sorte. Elle va avoir lieu, mais elle peut aussi avoir lieu, en quelque sorte, à notre corps défendant. Quand Chazal dise, si vous faites rien, je vous enverrai un roi pire que Haman, et vous serez bien obligé de faire tchouva, on fera tchouva. Mais ça, c'est quand la tchouva, elle vient par la mauvaise manière. Donc, il y aura une Géoula douce, ou bien, si on a des mérites, si on n'a pas de mérites, une Géoula difficile. Donc, l'issue est assurée, mais le chemin dépend de l'homme. Donc, c'est comme si Hachem garantit le résultat, mais il laisse à l'homme le choix de la manière d'y parvenir. Voilà, je suis désolé, j'ai dépassé. Limites.
Télim.